Benaï Traoré.
Le fendre par la maîtrise du feu, le frapper, le modeler sous les coups cadencés du marteau sur l'enclume, dans le grondement de son fourneau et les respirations incessantes de son soufflet, le forgeron africain perpétue avec habileté depuis des millénaires l'extraction et le travail du fer. Un savoir-faire africain nié jusque dans les années 70-80, date à laquelle des fouilles archéologiques mettent enfin en lumière, notamment au Niger et au Nigeria, l'existence d'une métallurgie ancienne et africaine. Quelle est l'histoire de la métallurgie du fer en Afrique? Où et quand s'est-elle développée pour la première fois pour ensuite se diffuser à travers le continent? Que nous dit-elle des sociétés anciennes africaines? Nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec nos invités. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Afrique, mémoire d'un continent, l'Afrique par elle-même et dans les courants du monde. Pour parler de l'histoire de la métallurgie en Afrique, nous recevons en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Occitanie à Toulouse deux invités. Caroline Robien-Bruner, directrice de recherche au CNRS à Toulouse, et vous êtes aussi spécialiste des métaux en Afrique. Également avec nous, depuis les mêmes studios, Hélène Timpoko, qui est donc Kabouré, professeure à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, archéologue, historienne et anthropologue. Vous êtes également conseillère technique de la ministre de la Culture chargée du patrimoine archéologique. Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Dites-nous déjà, Caroline Robien-Bruner, de quand date l'apparition de la métallurgie en Afrique et quel a été le premier métal produit ?
Alors, la métallurgie en Afrique apparaît à peu près à la deuxième moitié du deuxième millénaire avant. Donc on est à 2500 avant, peut-être un petit peu plus ancien pour certaines dates, mais qu'il faudrait confirmer. Et cette métallurgie, c'est la métallurgie du fer, c'est-à-dire contrairement à d'autres endroits du monde, quand on est au sud du Sahara, on débute, enfin les anciens débutent par la production du fer, avant celle du cuivre et des alliages cuivreux.
Sur le continent africain, on est allé directement sur l'âge du fer.
On est allé directement sur l'âge du fer et en l'état des connaissances, parce que l'archéologie, elle est tout le temps en mouvement et en découverte et en évolution, mais en l'état des connaissances actuelles, on a quatre foyers qui se situent dans les pays actuels du Niger, du Nigeria, Centrafrique et la région des lacs.
On reviendra tout à l'heure sur ces grands foyers. Hélène Timpoko-Kabouré, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on imagine que ce ne sont pas forcément les mêmes dates. De quand datent les sites les plus anciens de métallurgie dans ce pays?
Je pense que pour la Côte d'Ivoire, il faut que je vous dise que les recherches ont commencé, c'est-à-dire les fouilles programmées avec des datations archéologiques ont commencé en 2013 avec l'équipe suisse. Vincent Cernels, pardon, en 2013. Avant cela, il n'y avait pas de recherche archéologique avec des fouilles de datation en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec l'équipe suisse de Fribourg que nous avons commencé ces recherches archéologiques-là. C'est pour vous dire que ces recherches sont quand même récentes. Les datations partent pour la Côte d'Ivoire du 5e au 19e siècle, avec des datations bien précises. Et nous avons daté ces sites, qui sont des sites de réduction, qui sont des fourneaux, les restes de fourneaux et autres. Nous avons daté dans le nord qui donne du 11e au 19e siècle, dans la zone forestière qui va du 5e au 8e siècle et dans la zone côtière. Au niveau des îles Eotilées qui vont du 12e au 13e siècle. Voilà les datations que nous avons eues en quelques 3 ou 4 années de recherche en Côte d'Ivoire.
On reviendra sur tout ça en profondeur tout à l'heure. Justement, à propos des datations, je vous propose qu'on écoute ensemble cet extrait de l'archéologue Élisée Koulibaly.
C'est qu'au début du 20e siècle, pour des raisons idéologique, on a considéré que l'Afrique et les Africains avaient été incapables d'inventer une métallurgie. Or, les recherches se sont intensifiées à partir des années 70 et ont conduit justement à la découverte de ces sites qui sont considérés comme les plus anciens. Aujourd'hui, on pense que toutes les théories qui ont été développées pour faire venir la métallurgie du fer du Proche-Orient, la région du Caucase, à travers l'Égypte jusqu'en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest par l'Égypte, sont aujourd'hui complètement remises en cause parce qu'on a trouvé des sites, pas seulement au Niger, au Nigeria, en Afrique centrale, au Gabon. Dans presque la plupart des zones aujourd'hui où il y a des recherches, on trouve des dates très anciennes qui sont antérieures à la naissance de Jésus-Christ, donc antérieures à notre ère, et qui étaient des dates bien antérieures au contact entre l'Afrique et les pays occidentaux.
Caroline Roubien-Brunner, par rapport à ce qu'il dit, est-ce qu'il y avait donc des foyers d'apparition indépendants d'un contact avec le monde extérieur ?
Oui, tout à fait. La métallurgie du fer en Afrique est indépendante de tout contact avec d'autres civilisations, soit méditerranéennes, soit égyptiennes. Et en fait, pour juste un peu nuancer le propos d'Élisée Koulibaly, c'est à la fois à la période des années 1970-80, on nie l'ancienneté, la très ancienneté de la métallurgie du fer en Afrique, mais aussi c'est parce qu'on est dans des schémas de diffusion. On est persuadé, comme pour le néolithique, qu'on a un foyer au monde et après que toutes les, je dirais que l'invention, que ça soit la sédentarisation, la mise en place de la poterie ou de la métallurgie, eh bien, elle part d'un endroit dans le monde et puis elle se diffuse. Aujourd'hui, avec les avancées archéologiques et la multiplication des fouilles, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a des foyers indépendants qui n'ont pas forcément besoin des autres pour inventer une nouvelle technique.
La diffusion sur le continent, comment s'est-elle faite ? Elle est partie des grands foyers que vous avez tantôt cités ?
Oui, elle est. Alors là aussi, c'est, je dirais, la partie où qu'on connaît le moins, qu'on arrive le moins à restituer, parce qu'il y a encore énormément de recherches à produire pour pouvoir connecter les foyers, pour pouvoir connecter les zones et voir bien comment ces savoir-faire se sont diffusés. Mais en tout cas, là où on a le plus avancé, c'est certainement avec la migration bantoue qui partirait Niger-Nigeria pour se propager vers le centre de l'Afrique et puis plus au sud, qu'on voit un déplacement et une diffusion des techniques métallurgiques du fer. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on doit approfondir sur ce concept de diffusion.
En Côte d'Ivoire, Hélène Tempoko-Kabore, comment s'est-elle faite ? C'est parti de la migration des populations ? Ou c'était aussi une invention indépendante ?
Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, comme les recherches sont des recherches qui sont très récentes, avec les datations depuis 2013, c'est un corpus des datations qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer au niveau de la diffusion des techniques de la Côte d'Ivoire. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'au niveau du Nord, avec les recherches qui ont été faites, les vestiges que nous avons trouvés et qui montrent que depuis le 11e siècle jusqu'au 19e siècle, il y a eu de la production à l'état actuel de nos recherche. Il faut dire qu'il y a aussi, quand on pose des questions aux populations en place qui sont souvent pas les auteurs de ces vestiges, mais qui, dans l'histoire, disent que les gens sont descendus des empires vers le plus au nord et sont descendus. Et c'est dans cette dynamique-là qu'il y a eu ces productions-là. Mais cela dépend de la période, de la datation de ces sites-là. De ces sites. Donc il y a cela, mais les sites aussi plus récents sont un peu historiques. On parle un peu de la période au niveau de Siola, c'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, vers Odjené, Siola, Doumbala, où il y avait la période où, parce que Samori aussi est plus récente, où il y a eu des populations qui ont produit le fer.
Quand vous parlez de Samori, le conquérant Samori Touré qui a mené des conquêtes dans cette zone-là.
Il y a ça, et puis aussi il y a le fait aussi que les éléments que nous avons trouvés, les vestiges trouvés au niveau de la zone côtière, datés du 12e au 13e siècle, sont antérieurs à la migration des populations qui se sont installées actuellement, les populations à Kan qui sont passées par là, les îles Otilé qui se trouvent à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et il s'est avéré que les populations qui sont là-bas, nous pensions à l'époque, les chercheurs ne savaient pas que la métallurgie avait été développée sur cette côte-là. On voit que du 12e au 13e siècle, il y a eu une réduction à cet endroit qui remet en cause un peu vraiment cette explication qu'on dit au niveau du sud. Il n'y avait pas la métallurgie, c'était plus la pêche, c'était plus autre chose. Il y avait d'autres activités avant cela.
Ce qui fait donc la particularité de la métallurgie en Côte d'Ivoire. Caroline Robion-Brunner, il y a eu différentes hypothèses avancées sur les origines de la métallurgie par certains chercheurs qui défendaient plutôt un schéma diffusionniste, c'est-à-dire que la production du fer aurait été importée sur le continent africain depuis le Proche-Orient en passant par l'Égypte, ce qui voudrait dire que ces techniques n'ont pas été créées en Afrique. Est-ce que c'est quelque chose qui continue de faire débat ou bien ce débat est clos aujourd'hui?
Je pense que ce débat est définitivement clos. Alors vous trouverez peut-être un ou deux chercheurs qui le maintiennent, mais ça tient plus du tout la route vu les dates. En fait, on a des dates parfois beaucoup plus anciennes qu'en Égypte pour la métallurgie du fer, parce qu'en fait il y avait deux hypothèses de diffusion, soit par les Phéniciens, donc à travers le Sahara, soit l'Égypte puis le Soudan. Et par exemple au Soudan, la métallurgie, elle est la plus ancienne, elle est huitième, alors que au Nigeria, on a des choses beaucoup plus anciennes, 1200 avant. Donc on voit bien que ce n'est plus robuste et ça ne peut plus être tenu. Par contre, ce qui reste l'énigme, c'est que pour produire du fer, alors je rappelle juste une chose, c'est que le fer, c'est un des seuls métaux qu'on ne peut pas acquérir de manière naturelle. L'or, on peut avoir des paillettes, l'argent, on peut avoir également des paillettes, ainsi que le cuivre. Par contre, le fer, il provient de minerais particuliers, et si on tape sur ces minerais, on n'obtiendra jamais un couteau. Il faut en fait le réduire, c'est-à-dire qu'il faut monter en température jusqu'à 1300, 1400 degrés pour pouvoir concentrer les atomes de fer et avoir ce métal fer. Et la question qui reste en suspens, c'est de se dire, eh bien ces hommes, ils ont directement fait du fer, c'est-à-dire qu'ils ont directement obtenu des très haute température, alors que pour le cuivre, on est plutôt à 800 degrés. Donc c'est un peu une énigme. Il n'y a pas une évolution des techniques darwinistes comme on a l'habitude de voir. On a une métallurgie de fer sans prérequis préalable. Et ça perturbe quand même nos schémas un peu préconçus sur l'évolution des techniques.
Afrique. Mémoire d'un continent.
Dites-nous, Hélène Timpoko-Kabore, comment les métallurgistes africains vont-ils procéder pour extraire le fer? Quels sont les types de métallurgie qui existent?
Il faut dire que pour la métallurgie du fer, comme a dit Caroline Robion tout à l'heure, c'est vraiment un système, c'est-à-dire que ce sont des processus. C'est-à-dire la réduction du minéral de fer commence par vraiment plusieurs étapes. C'est-à-dire ça commence d'abord par ce qu'on appelle la prospection. Après la prospection, nous avons ce qu'on appelle l'extraction du minéral de fer. Et l'extraction du minéral de fer entraîne à la réduction. Réduction du minéral de fer dans les bas fourneaux, pas pour la taille, mais pour le système qui est utilisé, pour la méthode utilisée, c'est-à-dire que la température dans ces fours-là ne permet pas d'atteindre des températures au-delà de 1500 degrés, donc ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle une loupe de fer, et cette loupe de fer-là est travaillée à la forge pour avoir les objets. Donc vraiment, c'est une chaîne opératoire que les métallurgistes suivent avec beaucoup de munitions. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'au niveau de l'Afrique, il y a la diversité des techniques, la diversité des procédés d'obtention de cette loupe-là, de ce produit-là, et qui fait que on n'a pas un procédé typique. Dans un même espace, ça peut être comme au Mali, dans le travail qu'a fait Robion, on voit que dans un espace bien déterminé, après de 7 traditions techniques, c'est-à-dire 7 techniques différentes, on a aussi au niveau de la Côte d'Ivoire dans le nord-ouest, où on a travaillé à Kanyasso, à Doumbala et Sioula et autres, on a trouvé près de 4 traditions techniques dans un même espace et qui aussi souvent se développent au même moment, qui sont contemporains.
Et c'est la technique appelée la technique directe?
Oui, sa technique directe qui donne le fer qui n'est pas liquide, comme dans la technique indirecte où les températures sont plus hautes et qui donne une fonte. Au niveau pour la technique directe, on a une éponge, on appelle une éponge de fer qu'on travaille au niveau de la forge pour avoir les objets. C'est pour vous dire qu'au niveau de l'Afrique, les gens, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, les gens, les chercheurs pensent que c'est des techniques, quand ça change, c'est une évolution au niveau du temps, dans le temps. Non, c'est souvent même la culture, c'est souvent l'identité des forgerons. L'identité des forgerons qui se détermine dans la réduction du minerai de fer. Donc, et comme je disais tout à l'heure, il faut savoir que nous, au niveau de l'Afrique, c'est vraiment des spécificités. Des spécificités,
Dites-nous comment l'identité des métallurgistes, comment leur identité transparaît dans ce travail-là du fer?
Leur identité transparaît dans ce travail du fer parce que chaque métallurgie souvent a des origines différentes. Des origines différentes et leur culture qu'ils ramènent au niveau de la production. Et vous allez voir souvent que les formes des fourneaux peuvent être différentes. Au niveau de la forme, au niveau de la base, au niveau de certaines parties ou bien même au niveau des aspects immatériels, par exemple. Les aspects immatériels, comment ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est pas matériel. Avant, par exemple, de réduire le minerai de fer, il y a souvent des actes culturels qu'ils font, d'autres font autrement. Donc, c'est cette identité-là qui influence aussi sur cette métallurgie-là.
Caroline Roubion-Brunner, l'identité du métallurgiste, du forgeron, est-elle importante dans son processus de création? Je dis ça par rapport au métallurgiste Dogon du Mali, par exemple. Est-ce que leur façon de travailler sera la même qu'un métallurgiste qui sera à Agadez, au Niger?
Chimiquement, physiquement, oui. Les processus de réduction vont être les mêmes. Par contre, il faut bien imaginer que transformer la matière à ce point-là, c'est-à-dire que là, on a vraiment, vous imaginez une pierre, peut-être un peu plus lourde que celle d'à côté, et cette pierre, en la chauffant, on va complètement changer sa structure physique et chimique, c'est-à-dire qu'avant, c'était une simple pierre. Et après, on va avoir un couteau qu'on peut déformer, qui va permettre de couper, qui va être très dur, avec lequel on peut aussi, ce métal, on peut aussi faire de la une houe, qui est très utile pour labourer son champ. Et donc, cette capacité technique, elle va être, je dirais, mobilisé dans des rituels et des savoirs aussi magiques. Parce qu'il y a une part de magie à transformer les matières. On est dans la transcendance. Donc les métallurgistes, pour garder ces savoirs et souvent ne pas les partager avec les agriculteurs, par exemple au pays Dogon, ils appartiennent à des groupes qui ne se marient pas avec les agriculteurs, eh bien ils vont construire autour de cette technique, des savoirs et des rituels qui permettent de réellement être propriétaire de ce savoir-là, d'aussi reconstituer le monde comme il le voit. Et dans ce cas-là, on a presque affaire à une langue, une écriture, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'identité et qu'on se transmet à l'intérieur du groupe. Alors certes, hein, des fois l'économie, la guerre, la politique va occasionner des adaptations techniques, des changements ou des abandons. Mais quand même, on est dans des processus d'identité de groupe.
Afrique, mémoire d'un continent.
Vous êtes sur RFI et vous écoutez Afrique, mémoire d'un continent. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire de la métallurgie sur le continent africain. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après le journal.
We'll be right back.
Benaï Traoré.
Afrique, mémoire d'un continent, on retrouve nos invités. Hélène Timpoko Kinon-Kabouri, professeure, archéologue et historienne. Aussi, Kabourine Roubian-Brunner, directrice de recherche au CNRS à Toulouse. Et vous êtes spécialiste des métaux en Afrique. Si les sociétés africaines ont été capables de maîtriser les techniques d'extraction du fer, c'était pour des usages bien déterminés. Alors, comment ces savoir-faire leur ont été utiles? Écoutons l'archéologue et métallurgiste burkinabé Élise Foniama-Tiombiano.
Nous avons les activités agricoles. Donc, avec les lames que l'on a retrouvées, donc, parfois sur certains terrains, on sait qu'il y avait des populations agricoles qui vivaient là. Mais également, les pointes de flèches qui ont été retrouvées montrent, et puis l'intensité et l'étendue, en tout cas, des ateliers de production de fer montrent que, il y avait une population guerrière qui était dans ces environs-là. Et cela a permis, bien sûr, au pouvoir traditionnel de l'époque d'étendre leur territoire. Et il faut reconnaître également qu'il y a des outils qui étaient utilisés dans le cadre donc, de la chasse. C'était une richesse parce que c'est à partir du fer qu'on pouvait étendre le territoire, c'est à partir du fer qu'on pouvait se nourrir. Et bien sûr, le forgeron, le métallurgiste avait de la valeur à l'époque parce que tout tournait autour de cette production du fer qui était utilisée donc, pour fabriquer les outils qui étaient utiles pour tous les jours donc, à la société.
Professeur Hélène Timpoko Kabouré, en plus des usages cités, l'utilisation du fer avait-elle une importance dans d'autres domaines comme les rituels, les pratiques religieuses par exemple?
Oui, je pense que c'est comme en Afrique, hein, vous savez, c'est-à-dire le forgeron, le travail du forgeron est entouré des rituels, des rites. Les objets pour l'agriculture, les objets pour l'utilitaire, il y a aussi des objets qui sont des objets rituels, qui sont fabriqués par le forgeron. Par exemple, au Burkina, si je prends l'exemple du Burkina, le Nyonyoara, qui est aussi une personne qui, au niveau rituel, au niveau de cette société-là, est très importante. La hache qu'ils utilisent pour les rituels est fabriquée par le forgeron. Il y a aussi, je peux donner l'exemple aussi, quand les objets pour l'enterrement, c'est-à-dire voilà, le forgeron, et il est aussi la personne qui fait tout pour qu'il y ait la paix, la cohésion dans la société. Et donc, une personne dans la société, dans certaines sociétés africaines, et qui fait quelque chose qui est interdit, et quand il y a des conflits, le forgeron va pour se mettre peut-être entre ces personnes-là et leur demander d'arrêter. Et quand il n'arrête pas, ça veut dire que quand on va l'enterrer, cette personne-là, elle ne pourra pas bénéficier des objets qui sont utilisés pour, par exemple, enterrer. C'est-à-dire, c'est du fer qu'on prend pour creuser. Et si vous ne respectez pas, vous ne pouvez pas bénéficier de ces objets-là pour qu'on creuse votre tombe et comme. Donc, ça fait que le forgeron est tellement craint dans ces sociétés souvent que ce qu'il dit pour la paix, personne ne va contre cela. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui se pend dans cette société africaine. Une personne qui se pend, c'est le forgeron, chez les Mossi surtout, c'est le forgeron qui coupe la personne du dessus de l'arbre pour l'enterrer. C'est lui qui a le droit de l'enterrer parce que sinon si les autres le touchent, ils seront peut-être souillés. Donc il y a beaucoup d'objets, des rituels, il y a beaucoup d'objets cultuels qui sont fabriqués, confectionnés par le forgeron. Et donc c'est pas seulement que des objets utilitaires pour l'agriculture et autres dans nos sociétés traditionnelles.
Caroline Roubian-Brunner, après tout ce que Hélène Timpoko Kabouré vient de nous expliquer, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystique autour du travail du fer dans les sociétés anciennes africaines?
Ah oui, c'est bien évident. Hein, si un jour on a la chance d'assister à une réduction, il y a quand même, c'est de l'ordre du magique parce que, alors, il faut imaginer une cheminée qui peut faire à peu près 2 mètres de haut, qui a des orifices en bas de cette colonne dans laquelle on met des tubes d'argile pour que la ventilation, l'air passe et rentre dans cette colonne et fasse en sorte que les températures montent à 1500 degrés. Puis on va charger cette colonne de charbon et de minerai. On va mettre le feu et puis on va attendre. Et là, les métallurgistes nous racontent qu'il y a des bruits, des odeurs, des couleurs de flammes qui sortent de la colonne qui changent. Et au bout de 5 heures, 6 heures, parfois 2 jours, Eh bien, à un moment donné, on va ouvrir la porte d'en bas et on va ressortir une loupe. Donc, sans action humaine, il y a eu une transformation de la matière dans cette colonne. Et c'est les populations en charge de faire ce métal unique, eh bien, vont entourer ces activités de mystère, de danger également, et en retirent un certain pouvoir qui leur permet, ce qu'a dit ma collègue, de rendre la justice, de pouvoir aussi soigner certaines maladies et d'être un petit peu le passeur entre les sociétés du sous-sol et les hommes.
Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est comment ce processus de création est apparu. On sait qu'il y a un procédé qui est mis en place pour extraire le fer. Mais comment ces sociétés-là en sont arrivées à réfléchir, à se dire « on va extraire le fer de cette façon-là » C'est quelque chose qui m'interroge.
Alors ça nous interroge tous, les archéologues et les paléométallurgistes les premiers. Et on aimerait bien avoir une machine qui nous puisse nous faire remonter le temps et interroger les premiers métallurgistes. Quand on a la chance, on peut interroger des centaines. Et en fait, les descendants nous disent on fait comme notre père, comme le père a montré ou comme le maître de la réduction nous a montré. Et en fait, on a une chaîne de transmission, mais on n'a pas accès au premier. Alors bien sûr, il y a des mythes qui accompagnent cette origine. Ça peut venir comme au pays d'Ogon. Alors il y a deux mythes qui sont très intéressants au pays d'Ogon, qui sont véhiculés par deux populations différentes. Il y a une population qui parle d'un dieu qui serait descendu sur terre avec l'enclume et le soufflet. Et puis notre population qui dit qu'il y avait des ancêtres, mi-humains, mi-animaux, qui sont sortis de terre et qui ont montré le minerai. Alors nous, on les interprète avec ceux qui sont descendus du ciel plutôt comme une population qui en a appris d'autres, mais d'une population autochtone qui se lie en fait avec la terre, donc une métallurgie qui s'est plutôt diffusée. Mais on a bien du mal encore à l'heure actuelle à savoir qui a eu l'idée de transformer ce minerai en fer et à avoir la capacité technique à faire ce premier geste.
Ceux qui fabriquaient ces objets sont connus pour leur maîtrise du travail du fer, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Ce sont les forgerons à qui la chanteuse malienne Awa Dramé rend hommage dans cette chanson « Noumou Folie » en langue bambara du Mali. Entendez par là hommage aux forgerons.
Na 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 na
Sanko Koulibaly. Vous connaissez beaucoup de chansons qui rendent hommage aux forgerons?
Je connais bien, et souvent dans les chansons au niveau de certaines sociétés, comme au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien du Burkina, on en a des fois qui rendent hommage aux forgerons, à leur travail qui est difficile, à leur travail qui pourrait être vraiment très culturel et mystique. Quand ils chantent le forgeron, pour eux, c'est souvent le début de la vie. Pour eux, c'est le début de la vie et c'est le forgeron qui est aussi à la fin de la vie. Souvent, il y a des chansons. J'oublie le nom du chanteur parce que aussi c'est le forgeron qui enterre les morts aussi dans certaines sociétés.
Les objets que le forgeron fabrique, justement, que nous disent-ils des sociétés anciennes africaines, Caroline Robion-Brunner?
La majorité du fer est transformée en outils agricoles. Et il y a un accroissement de la production agricole grâce aux outils en fer. On a vraiment un changement. Le fer est idéal pour creuser la terre, pour la remuer et pour pouvoir en fait cultiver les céréales ou l'igname, ou etc. Donc c'est vraiment le métal, la matière première idéale pour l'agriculture. C'est également matière première idéale pour faire des armes de défense et offensives. Les empires d'ailleurs de la vallée du Niger vont s'octroyer ou en tout cas avoir dans leur sein les métallurgistes parce que ça leur permet d'avoir la ressource pour faire des armes et pour être autonome, suffisant pour en autonomie, je dirais, alimentaire, mais également en armement. Et puis, ce fer est également là, dans les moments cultuels, à la fois sur les instruments de musique, les clochettes, les cloches, tout ce qui est sonore qui constitue des moments de collectif et de rassemblement populaire.
Est-ce que ce sont les mêmes objets qui existaient dans les temps anciens qu'on a peut-être retrouvés sur des sites? Ce sont les mêmes objets qui sont fabriqués aujourd'hui encore?
Il y a bien sûr des transformations, hein. Il y a des adaptations de l'outillage, mais aussi une adaptation du travail du forgeron, parce que c'est encore un artisan actuel qu'on retrouve dans les villages, mais aussi dans les villes. C'est quelqu'un qui... C'est le mécanicien, souvent les mécaniciens actuels dans les villes, c'est d'anciennes familles de forgerons. En fait, c'est un artisan qui sait très bien s'adapter et qui a une ingéniosité à comprendre la matière métallique. Alors, il ne fait plus que du fer, hein. Il fait aussi aujourd'hui les chaudrons en aluminium, les objets aussi en cuivre. Enfin voilà, il a une grande capacité à s'adapter et c'est aussi un artisan nomade. Donc il peut se déplacer et diffuser ses techniques et ses savoirs et aussi sa production.
Le minéralogiste géologue Vincent Sirnels a dit ceci, je le cite, « Inventer le fer est une évolution technique, mais développer une production massive qui permet de faire des outils pour tout le monde est un changement de société. » Hélène Timpoko-Kabore, est-ce que la maîtrise de la métallurgie a engendré un changement majeur dans les sociétés africaines?
Ça, c'est vraiment le développement, l'invention de la métallurgie a vraiment changé profondément, hein, je pense que profondément la société africaine, parce que d'abord, il y a le volet technique, c'est-à-dire qu'au cours du temps, comme elle a dit tout à l'heure, il y a une adaptation, il y a un changement de la société au niveau économique, parce que ça va permettre aussi de développer l'agriculture. Et plus on avance vers le temps, plus les techniques se perfectionnent, entre guillemets. Je ne peux pas dire que comme aujourd'hui, mais ça, et au niveau technique, il y a une évolution certaine avec, on voit cette évolution-là qui a un impact sur la société dans même des traditions techniques de ces fourneaux-là, qu'on étudie et qu'on essaie de voir comment ça a été fait, il y a cette évolution technique-là. Et puis aussi, il y a l'évolution économique, parce qu'avec la métallurgie du fer, la production production des objets, il y a eu un commerce qui s'est mis sur pied, le commerce transsaharien par exemple, et puis aussi le commerce qui se faisait entre la zone sahélienne et la zone forestière, des personnes qui échangeaient ces fers-là contre d'autres objets. Mm. Et aussi le changement profond politique. Quand on parle tout à l'heure, elle parlait des empires. C'est-à-dire ça, il y a la production du fer a vraiment joué sur la mise en place de ces empires-là, qui avaient besoin de fer, qui avaient besoin de
pour fabriquer des armes,
contrôler les routes. Et de faire les armes, pour faire les armes et contrôler les routes de commerce. Les routes de l'or, par exemple, ont été contrôlées par ces États-là qui ont eu une certaine puissance. Alors, il y a aussi le fait aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire au niveau de la production du fer, à partir du 8e siècle, on a vu qu'il y a eu une intensification de la production et dans la zone soudanais-guinéenne, il y a eu une augmentation de la production. Vraiment, c'est un marqueur. Et j'ai dit lourd de la société africaine en particulier.
Caroline Roubien-Brunner, au regard de tout ce qui a été dit, les vestiges qui ressortent au grand jour des recherches archéologiques, peut-on affirmer que la métallurgie est une invention africaine ?
Alors, elle est une invention africaine en Afrique. Parce que par contre, elle est indépendante, mais on ne voit pas non plus de diffusion dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette métallurgie, elle ne part pas d'Afrique pour aller dans d'autres civilisations ou d'autres continents. Mmh. Elle se met en place en Afrique en toute indépendance, mais sans diffusion vers l'extérieur.
Aujourd'hui, que reste-t-il des vestiges ? Qu'est-ce qui est fait pour les préserver ?
Alors, il y a des programmes qui se mettent en place de conservation, préservation, surtout pour montrer au public les vestiges et ce savoir. Parce qu'il faut être tout à fait honnête, on a encore du mal à faire prendre conscience aux populations actuelles qu'elles ont été indépendantes dans les certaines inventions techniques. Voilà, quand on parle à des adultes et même des enfants, que ça soit au Togo, au Bénin, et qu'on leur dit qu'il y avait des grands centres de production du fer au XIe siècle, ils sont tout à fait étonnés, ils ont l'impression que le fer, il arrivait par les bateaux de l'Europe. Et il faut donc avoir déjà une prise de conscience et une éducation. Donc on essaie de préserver ces sites. On essaie également de réaliser des bandes dessinées, des films, des documentaires, des expositions. Et puis il y a aussi d'autres modes. Je pense au compteur burkinapé KPG, si je dis bien son nom, qui est descendant de forgerons et qui, par ses comptes, rend compte des histoires des forgerons et de leur importance.
En 2019, des hauts fourneaux du Burkina Faso, vieux de plusieurs siècles, ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance tardive, certes, mais qui témoigne de l'existence d'une invention de la métallurgie en Afrique. Elle nous dit surtout qu'il reste encore d'autres vestiges métallurgiques à découvrir à travers le continent afin de lever l'éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est encore temps de se réapproprier. Nos invités étaient en duplex de Toulouse avec les moyens techniques de France Bleu Occitanie, que nous remercions au passage. Caroline Roubien-Brunner, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des métaux en Afrique. Hélène Timpoko Kienon-Kabouré, professeure à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, archéologue, historienne et aussi conseillère technique de la ministre de la Culture chargée du patrimoine archéologique en Côte d'Ivoire. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.
Merci à Delphine Michaud à la coordination et Taguim Fatraoré à la réalisation. Pour rappel, désormais, Afrique, mémoire d'un continent, est diffusée le dimanche à 8h10 et 22h10 en temps universel et 10h10 heure de Paris. Cette émission et toutes les précédentes sont disponibles à l'écoute sur www.rfi.fr et sur l'application Pure Radio. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux Facebook et X, ex-Twitter, et nous suivre également. Le compte s'appelle Afrique, mémoire d'un continent. Je laisse le micro la semaine prochaine prochaine à Elgas. Il reviendra avec son invité Mohamed Mougarsar, le prix Goncourt 2021, sur deux œuvres majeures de la littérature africaine de l'année 1968. Des œuvres de Yambo Wulegum et Amadou Kourouma. Je vous retrouve donc dans deux semaines. Excellent week-end à l'écoute de RFI.